Vous écoutez bien RFI, dernière partie d'RFI Midi. Il est 13h en temps universel, 15h à Paris et 9h à Washington et Port-au-Prince.
RFI Midi, Anne Contner.
Dernière partie sur le continent américain, nous irons en Haïti. Notre correspondant est allé demander aux habitants de Port-au-Prince ce qu'ils pensaient de l'utilisation de drones par la police dans sa lutte contre les gangs. On reviendra bien sûr sur les droits de douane imposés par Donald Trump et leurs conséquences partout dans le monde. Dans un instant, dans le journal, et puis on verra aussi qu'il est toujours bien difficile pour les démocrates de savoir comment réagir. Revue de presse dans quelques minutes. Reportage aussi auprès de guérisseurs Mapuche. Et puis, comme chaque jour, l'actualité des Outre-mer françaises. Avec vous, Serge Massot, on parlera d'un projet de loi de simplification économique qui concerne la Guyane. Il arrive à l'Assemblée nationale.
Oui, et ce texte contient une réforme du code minier très attendue en Guyane, mais qui inquiète les associations de défense de l'environnement.
À tout à l'heure.
RFI Midi.
D'abord le journal, l'essentiel de l'actualité internationale. Avec vous, Juliette Pietraszewski, bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Face aux taxes américaines, la réponse européenne peut être extrêmement agressive, c'est ce que dit Paris aujourd'hui.
La guerre commerciale a commencé, les marchés mondiaux sont secoués ce matin. De Tokyo à Shanghai, en passant par Séoul et Taipei, les principaux indices asiatiques en partie fermés vendredi ont connu un lundi noir. Les bourses européennes plongeaient encore à mi-séance. Wall Street va ouvrir dans quelques minutes, à l'heure où les agriculteurs américains s'inquiètent aussi des nouveaux droits de douane mis en place par Donald Trump, pour qui ils ont massivement voté lors de la présidentielle. Ils redoutent de voir leurs exportations chuter. Des hausses de tarifs douaniers qui ciblent directement les trois premiers partenaires agricoles des États-Unis, à savoir la Chine, le Mexique, le Canada, qui pèsent 45% des exportations. Myriam Berber.
L'an dernier, l'agriculture américaine a exporté pour 24,5 milliards de dollars de sa production vers la Chine, son troisième partenaire commercial derrière le Mexique et le Canada. Certaines filières comme le soja, qui exporte près de la moitié de sa production vers Pékin, sont très exposées. La conjoncture est mauvaise, les cours de soja sont déjà à un niveau très bas en raison de stocks abondants. Les producteurs de coton sont également très inquiets, la Chine est leur premier marché. Et pour quel bénéfice ces nouveaux droits de douane encouragent en effet les pays importateurs à diversifier leurs approvisionnements. La Chine se tourne désormais vers le Brésil. Les agriculteurs américains s'attendent à des temps difficiles. Ils ont encore en mémoire les conséquences des surtaxes mises en place par Donald Trump lors de son premier mandat en 2018. Pour compenser une partie des 27 milliards de dollars de chiffre d'affaires perdus à l'export, le ministère américain de l'Agriculture avait alors versé 23 milliards d'aides en 2018 et 2019.
Et puis l'Union européenne a proposé aux États-Unis une exemption totale pour les biens industriels, déclaration d'Ursula von der Leyen il y a quelques minutes. Dans cette guerre commerciale, Pékin avait de son côté annoncé en riposte aux annonces de Trump l'imposition de droits de douane de 34% sur les importations américaines. Ce sera donc en vigueur à partir du 10 avril. La racine du problème des droits de douane se trouve aux États-Unis, a souligné le vice-ministre chinois du commerce. Il y a quelques heures, Donald Trump a qualifié la Chine, je cite, de plus grand profiteur de tous sur son réseau social, Truth Social.
Et sur fond de guerre commerciale, le Premier ministre israélien est arrivé à Washington aujourd'hui.
Pour un entretien avec le président américain, objectif, négocier face à l'augmentation massive des droits de douane et exempter Israël, ou au moins réduire les droits de douane s'élevant à 17%. Les tensions avec l'Iran et la guerre à Gaza sont également au programme des discussions. Gaza est aussi au cœur de la visite d'Emmanuel Macron en Égypte aujourd'hui. Le président français a commencé une série d'entretiens au Caire pour soutenir le plan arabe pour le territoire palestinien face aux ambitions contestées de Donald Trump et avant un volet plus humanitaire pour appeler à la levée du blocus de l'aide destinée à la bande de Gaza. Tout ça à l'occasion d'un sommet trilatéral avec son homologue égyptien Abdel Fattah el-Sissi et le roi Abdallah II de Jordanie. Ce midi, le président français a fait quelques déclarations et mis en avant la convergence de vues entre Paris et le Caire et manifesté son soutien au plan arabe de reconstruction de Gaza. On l'écoute.
Nous condamnons la reprise des frappes israéliennes à Gaza, qui constitue un recul dramatique pour la population civile, les otages, leurs familles et l'ensemble de la région. Nous appelons à un retour immédiat au cessez-le-feu, à la libération de tous les otages encore détenus par le Hamas à Gaza. La France rejoint aussi l'Égypte sur un point majeur, et je veux le redire ici avec force, nous nous opposons fermement au déplacement de population et à toute annexion de Gaza comme de la Cisjordanie. Il s'agirait d'une violation du droit international, d'une menace grave pour la sécurité de toute la région, y compris celle d'Israël. Je réitère également mon plein soutien au plan de reconstruction pour Gaza endossé par la Ligue arabe le 4 mars dernier Et je salue ici le travail crucial de l'Égypte sur ce plan, qui offre une voie réaliste à la reconstruction de Gaza et qui doit aussi ouvrir la voie à une nouvelle gouvernance palestinienne dans l'enclave, dirigée par l'autorité palestinienne.
Des propos recueillis par notre envoyé spécial au Caire, Valérie Gasse. Toujours dans la bande de Gaza, le Croissant Rouge palestinien demande l'ouverture d'une enquête internationale sur la mort de 15 secouristes tués le 23 mars dernier par des tirs israéliens sur des ambulances. C'était dans le sud de l'enclave. Le Croissant Rouge palestinien qui estime que l'équipe de secouristes a été touchée par des tirs israéliens avec l'intention de tuer. Fin de citation. Toujours au Proche-Orient, au Liban, un homme a été tué ce matin dans une frappe israélienne selon les autorités libanaises. Frappe sur un village du sud du pays où Tel Aviv mène régulièrement des raids malgré le cessez-le-feu en vigueur. Une source de sécurité israélienne a indiqué à l'AFP que la frappe avait visé un terroriste du Hezbollah. Fin de citation.
En Inde, des manifestations de la communauté musulmane après l'adoption d'une loi controversée samedi dernier.
Le Parlement a validé une réforme encadrant les fondations gérant le foncier islamique, comme les mosquées ou les cimetières. L'opposition dénonce une remise en cause des droits de propriété et la stigmatisation d'une communauté souvent ciblée par le BJP de Narendra Modi. On en parle avec Com Bastin.
Depuis 2019, on n'avait pas vu les musulmans descendre ainsi dans la rue en Inde. Le gouvernement nationaliste hindou de Narendra Modi est régulièrement accusé de marginaliser la deuxième communauté du pays, avec plus de 200 millions de fidèles. Ce week-end et ce lundi, des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs grandes villes, notamment dans des états d'opposition, comme Calcutta, au Bengale occidental, ou Bangalore, dans le Karnataka. Dans l'état du Manipur, la maison d'un dirigeant du BJP a même été incendiée. Appelée Wakf Board, ces fondations gèrent les biens religieux musulmans, souvent issus de donations très anciennes. Elles sont le troisième plus grand propriétaire foncier du pays. La réforme impose désormais des documents officiels pour justifier ses possessions, parfois reconnues par tradition, et donne à l'État le dernier mot en cas de litige. Le gouvernement affirme vouloir introduire plus de transparence dans un système qu'il qualifie de privilège communautaire. Mais alors que les nationalistes hindous réclament partout la restitution de terrains de mosquées en Inde, beaucoup redoutent que cette loi ne serve à démanteler le patrimoine musulman. Com Bastin, Chennai, RFI.
Direction l'île française de La Réunion, où la campagne de vaccination contre le chikungunya est lancée.
L'agence régionale de santé cible en priorité les personnes âgées de plus de 65 ans et les adultes atteints d'autres pathologies, c'est-à-dire des patients qui risquent de développer des formes plus graves de la maladie. Le virus se transmet par les moustiques tigres et a fait 2 morts sur l'île au mois de mars. Mais les risques d'une flambée épidémique sont élevés. Le premier vaccin, Ichik, développé par le laboratoire franco-autrichien Valneva, a été approuvé en juin 2024 en Europe et sera distribué en ce début de mois. Le professeur Antoine Flao est épidémiologiste et directeur de l'Institut de santé globale de Genève.
C'est un vaccin vivant atténué, un petit peu comme le vaccin contre la fièvre jaune. On le recommande aujourd'hui chez les personnes à risque, chez les gens de plus de 65 ans, parce que c'est eux qui sont aujourd'hui les plus concernés par les hospitalisations, chez les gens qui ont des comorbidités, quel que soit leur âge, parce qu'on peut être jeune, avoir des comorbidités et faire une forme grave de chikungunya. Et puis aussi chez les professionnels, ceux qui sont très exposés, si vous voulez, parce qu'ils sont affectés à la lutte contre les moustiques en particulier, et qui sont très souvent piqués malgré tout. Donc, tous ceux-là sont invités à se vacciner. Donc, pour l'instant, il n'y a pas une stratégie, à ma connaissance, des autorités de santé pour le recommander à toute la population. Je ne sais même pas s'il y aurait suffisamment de doses aujourd'hui pour vacciner les 880 000 habitants de l'île de La Réunion et tous ceux de Mayotte.
Des propos recueillis par Amélie Beaucourt. Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi.
Merci Juliette Pietraszewski. Et à tout à l'heure. Dernière partie d'RFI Midi, nous sommes sur le continent américain pendant les 20 prochaines minutes et on prend d'abord la direction d'Haïti.
RFI Midi, Cap-Haïtien, 100.5 FM.
Haïti, où l'association des journalistes lance un appel, exige justice et demande aux autorités de mieux protéger les journalistes. L'association indique dans un communiqué que 2 d'entre eux sont portés disparus depuis l'attaque de gang à Mirbalet la semaine dernière. Jean-Christophe Collègue, ancien correspondant de Voice of America, sa maison a été incendiée. Et puis Israël Roger Claudy, enlevé par des criminels qu'il aurait pris, selon l'association des journalistes, pour un membre de la BESAP, cette unité des forces de l'ordre. On apprend aussi qu'une dizaine d'autres journalistes ont dû prendre la fuite pour échapper à la violence des gangs. Violence toujours plus grande Et pour y faire face, la police utilise depuis quelques semaines des drones contre les groupes criminels à Port-au-Prince. Ils permettent d'atteindre des zones contrôlées par les gangs, mais cette nouvelle stratégie, elle ne fait pas l'unanimité. Ses partisans saluent un moyen pour les policiers de pouvoir enfin faire peur, voire de reprendre le contrôle de certains pans de la capitale et de ses environs. Mais d'autres voix critiquent l'efficacité limitée des drones, ainsi que le risque de victimes collatérales. Notre correspondant Peterson Luxama est allé voir ce qu'en pensent les habitants de la capitale haïtienne. Voici son reportage.
C'est une nouvelle stratégie qui alimente les discussions dans les rues de la capitale. Entre espoir et scepticisme, certains s'interrogent sur son efficacité, d'autres, comme Batisma, applaudissent l'initiative des 2 mai.
Pour moi, l'utilisation des drones est une très bonne chose, car la peur qui régnait au sein de la population depuis environ 4 ans s'installe désormais chez les bandits. En tant que citoyen, je pense que c'est une bonne stratégie, mais qu'elle devrait être encore plus efficace.
Et aux yeux de Batisma, être plus efficace, c'est atteindre les chefs de gang les plus influents.
Nous demandons aux autorités de continuer à envoyer des drones et de cibler les bandits afin qu'au moins quelques chefs de gang très connus soient éliminés. Ainsi, la peur changerait définitivement de camp et la paix pourrait enfin revenir dans le pays.
Même son de cloche chez Pascal, il l'a constaté dans son quartier. L'utilisation de cette nouvelle stratégie crée la panique chez les bandits, mais ils s'inquiètent. Les forces de l'ordre doivent éviter que les drones visent les résidents par négligence.
L'utilisation des drones a un effet dissuasif. Dans l'application de cette nouvelle méthode, il est essentiel d'éviter un trop grand nombre de dommages collatéraux. Nous souhaitons que les forces de l'ordre mènent leurs opérations avec précision et technicité afin de protéger la population civile.
Cependant, une autre partie de la population de Port-au-Prince est sceptique. Utiliser les drones, est-ce vraiment traiter le mal à la racine? Magdala en doute. Elle dit n'avoir rien contre cette méthode face aux gangs qui assiègent presque toute la capitale. Mais elle s'interroge sur les personnes qui financent les gangs.
Oui, lancer des drones pour atteindre des criminels armés comme Barbecue, est-ce vraiment la solution? N'y a-t-il pas des mains cachées derrière qui financent ces gangs? Après avoir éliminé ces bandits, ces personnes qui soutiennent les groupes armés et veulent nous pousser à fuir le pays, ne trouveront-elles pas d'autres Barbecue pour continuer à terroriser la population?
Quels sont les types de drones utilisés contre les gangs? Difficile d'en avoir une idée précise. Nous avons tenté de contacter un membre de la task force mise en place par le gouvernement pour diriger les opérations, mais en vain. Même la police n'est pas en mesure de dire quel type de drones sont utilisés, car elle n'a pas été informée de cette nouvelle stratégie. Une attitude que dénonce le syndicat de la police nationale, le SPNH 17. Son coordonnateur, Gary Jean-Baptiste, dit ne pas comprendre pourquoi l'institution policière est mise à l'écart.
Pour qui ça non pays?
Comment se fait-il que dans ce pays, la police et les forces armées, qui sont les principales forces de sécurité et qui mènent le combat sur le terrain, soient mises à l'écart? Si le gouvernement avait vraiment la volonté de résoudre le problème de la sécurité, pourquoi tout le matériel technologique, les munitions et les armes ne sont-ils pas mis à la disposition des forces de sécurité, notamment de la police?
À disposition forces de sécurité, notamment la police.
À ce manque de transparence des autorités et de communication avec la police, s'ajoutent d'autres questions soulevées par des experts en matière de sécurité, à l'image de Himmler Ebu, ancien colonel des forces armées d'Haïti. Au vu des dégâts qu'il a pu constater, les drones utilisés seraient, selon lui, des drones kamikazes qui sont loin d'être parfaits.
Il y a plusieurs types de drones d'attaque, par exemple.
Il existe plusieurs types de drones d'attaque, notamment les drones explosifs. Ces derniers fonctionnent comme des grenades. On les appelle des drones kamikazes. Lorsqu'ils atteignent leur cible ou le sol, ils explosent et projettent de multiples petits fragments à la manière d'une grenade. Le désavantage de ces drones est qu'ils ne permettent pas une grande précision de tir pour une élimination efficace de la cible.
Pour éliminer effectivement la cible.
Malgré ses limites, Himmler Ebu ne rejette pas l'utilisation des drones, mais elle doit, selon lui, s'inscrire dans une offensive plus globale contre les gangs.
C'est pas une mauvaise chose dans la mesure où...
Les drones ne sont pas une mauvaise chose dans la mesure où ils sont accompagnés d'un mouvement terrestre. On n'aurait pas dû utiliser ces drones sans obtenir des résultats tangibles, car l'utilisation d'un drone kamikaze nécessite un accompagnement au sol pour profiter de la pagaille créée dans le camp des bandits.
Alors que la situation sécuritaire du pays se détériore davantage chaque jour avec les gangs armés qui s'accaparent de plus en plus de territoires. Les autorités en place peinent à faire revenir la paix dans la capitale. Et les actions menées parfois sans une pleine coordination entre gouvernement et forces de l'ordre apparaissent comme des coups d'épée dans une mer agitée. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
La situation en Haïti inquiète son voisin, la République dominicaine, qui se barricade encore un peu plus. Hier, le président dominicain a annoncé des mesures pour, dit-il, protéger son pays. Et la presse haïtienne que vous avez lue pour nous, Marine de la Moissonnière, s'en fait l'écho.
Oui, Luis Abinader durcit le ton, écrit le Nouvelliste, qui liste les 15 mesures dévoilées hier et destinées à contrer la migration irrégulière haïtienne. Parmi elles, l'envoi de 1500 soldats supplémentaires à la frontière, en addition aux 9500 déjà en poste, ainsi que la construction de 13 km de clôtures supplémentaires aux 54 km de murs déjà construits, souligne le quotidien haïtien. Des mesures drastiques, estime le journal dominicain El Nacional. Des mesures fortes pour El Caribe. 1,5 million d'Haïtiens vivent en République dominicaine, pays de 10,5 millions d'habitants.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
On parlait tout à l'heure dans le journal de l'effondrement des marchés boursiers en Asie, en Europe, conséquence des droits de douane imposés brutalement partout dans le monde par Donald Trump. Il y a la politique internationale et puis il y a les mesures prises aux États-Unis, les coupes budgétaires, la fin des programmes de diversité, le licenciement de fonctionnaires fédéraux. Et face aux turbulences provoquées par Donald Trump, eh bien les démocrates sont assez silencieux jusqu'à présent, mais voilà qu'ils décident de réagir. C'est ce que nous apprend le Washington Post. Les démocrates créent, Marine, une cellule de guerre.
Oui, les démocrates ont entendu leurs électeurs rassemblés, notamment hier dans les rues de plusieurs villes américaines, des électeurs qui leur demandent de faire quelque chose. Et dans un premier temps, le parti veut contrer les fausses informations de l'administration Trump, explique le Washington Post. Pour cela, il va s'appuyer sur un vaste réseau de micro-influenceurs qui peuvent avoir un public plus restreint, mais plus dévoué sur les réseaux sociaux. Le parti qui va donc recruter et nouer des partenariats avec des influenceurs de confiance, notamment des influenceurs qui savent parler aux Américains, qui se détournent des médias et de la politique. Ce sont des tactiques d'opposition créatives, se félicitent les responsables démocrates qui espèrent redorer leur blason alors que le parti est au plus bas dans les sondages, explique le Washington Post. Pour beaucoup d'électeurs, les démocrates sont faibles.
Ils sont aussi trop vieux, explique le Washington Post dans un autre article.
Oui, les jeunes démocrates estiment que le parti est dominé par une vieille génération de dirigeants qui ont perdu le contact avec les luttes quotidiennes des Américains. Peut-on lire des dirigeants qui ne sont pas assez combatifs, estime ainsi Saïka Chakrabarty, qui a travaillé pour Alexandria Ocasio-Cortez, des dirigeants qui attendent simplement qu'arrive le retour de bâton pour Donald Trump et que la balance repenche en leur faveur. C'est comme si depuis toujours, les démocrates et les républicains jouaient aux échecs, sauf que là, les républicains ont mis le feu à la maison et les démocrates restent assis et réfléchissent à leur prochain coup, se désole la sénatrice du Michigan Mallory McMorrow, 38 ans, dans les colonnes du journal.
Et ce débat sur l'âge, il n'est pas nouveau.
Non, il touche aussi les républicains. D'ailleurs, Nikki Haley, candidate aux primaires face à Donald Trump, avait qualifié le Congrès américain de maison de retraite la mieux lotie des États-Unis, rappelle le Washington Post. Fin 2023, 79% des Américains étaient déjà pour l'instauration d'un âge maximum pour siéger à Washington. Mais pour certains démocrates, c'est devenu une urgence vitale de rajeunir le parti. Comme l'explique le Washington Post, ils ont l'impression que rien ne bouge alors que leur colère contre Donald Trump, elle ne fait que grandir. C'est pour cela que beaucoup de démocrates trentenaires sont en train de se mettre en ordre de bataille en vue des élections de 2026.
Eux aussi sont en colère, les agriculteurs américains, parce qu'ils sont affectés par les coupes budgétaires de Donald Trump. C'est un effet domino. Le gouvernement fédéral a mis fin à un programme pour les écoles, pour les lycées, programme qui permettait aux cantines de s'approvisionner chez les agriculteurs locaux. Mais depuis que les fonds sont suspendus, tout a changé. Reportage dans le Kentucky de notre correspondant Édouard Maille.
Au milieu du champ, quatre enclos pour les poules. Le fermier André Faul avait prévu d'en vendre une partie aux écoles locales.
On avait commandé les poussins, on avait fixé les dates avec ceux qui transforment ensuite la viande. On avait prévu de distribuer ce produit parce qu'on pensait que l'argent allait être disponible.
Le trentenaire ne comprend pas pourquoi vouloir arrêter ce programme.
Utiliser l'argent de nos impôts, les miens ou de n'importe qui, ça vaut le coup pour aider les fermes locales, rendre le système alimentaire plus résilient, offrir à nos enfants des déjeuners plus sains.
Les ventes aux écoles représentaient 1/6 des revenus de la ferme l'année dernière.
Ce n'est pas une somme énorme, mais tout est important quand vous avez une petite entreprise.
Dans le comté d'Oldham, juste à côté, Carlina Lloyd est la directrice de la nutrition pour les écoles publiques, là où devaient être vendus les produits d'André et d'autres fermiers.
Certains fermiers ont consacré des parcelles de leur terrain pour les écoles. Et maintenant, est-ce que les écoles auront l'argent pour payer ou devront arrêter les commandes? Ça met tout le monde dans une situation difficile.
Un programme similaire pour les banques alimentaires a aussi été touché. Au total, les coupes concernent 1 milliard de dollars distribués dans l'ensemble du pays. Edouard Maille, Louisville, dans le Kentucky, RFI.
Dans l'actualité également, la présentation aux Nations Unies d'un rapport sur la répression systématique au Nicaragua, sur la mainmise absolue du couple au pouvoir, le président Ortega et son épouse Rosario Murillo. Nous vous en avions parlé ici il y a quelques semaines. Aujourd'hui, le mouvement sandiniste a totalement fusionné avec l'État qui verrouille tout. C'est ce que nous explique l'un des membres du groupe d'experts de l'ONU sur le Nicaragua, l'avocat américain Reed Brody.
Finalement, on arrive à un moment où il n'existe pas d'espace civique au Nicaragua. Il n'y a pas de presse indépendante, il n'y a pas d'ONG indépendante. Et donc, la répression, en ce moment, c'est plutôt la surveillance, l'intelligence. Dans chaque quartier, dans chaque institution, il y a un secrétaire politique du Front sandiniste qui dit à son hiérarchie, attention, telle personne n'est pas fiable. Et donc, celui qui ose s'opposer, même sur les réseaux, même en faisant like dans Facebook, peut se trouver arrêté, expulsé. La violation la plus flagrante au Nicaragua aujourd'hui, c'est la dénationalisation. 453 personnes qui ont été déchues de leur nationalité. Le Nicaragua, aujourd'hui, est un pays d'un silence. Et celui qui ose dire quelque chose risque l'exil et d'être déchu de leur nationalité. 1 million de Nicaraguayens sont hors du pays.
L'avocat américain Reed Brody, membre du groupe d'experts des Nations Unies sur le Nicaragua, il était interrogé par Natalia Olivares de la rédaction en espagnol de RFI.
RFI. La radio del mundo.
Notre dossier du jour nous emmène au Chili, où la médecine traditionnelle est de plus en plus populaire. Celle des Mapuches dépasse désormais la seule communauté et les Chiliens font plus souvent appel aux machi, ces guérisseurs et leaders spirituels. Ils connaissent les plantes locales, ils les utilisent pour soigner le corps et l'esprit à travers des rituels sacrés et des cérémonies. Reportage de notre correspondante Naila Derouané.
Autour du lac Lanaloé, dans la région de l'Araucanie, se tient une cérémonie sacrée pour marquer la fin du cycle initiatique d'une machi. Elle est allongée sur un lit de feuilles et recouverte d'un drap noir. Sa famille et ses amis sont venus la soutenir. Un autre chaman, plus expérimenté, est penché au-dessus d'elle et frappe le kultrun. Les participants gravitent autour d'eux. Après de longues minutes, la machi est en transe. À 160 km plus au sud, c'est une autre machi qui nous reçoit. Miyarai, 33 ans, explique être passée par un rituel similaire il y a quelques années, lorsque elle aussi est devenue guérisseuse. Désormais, elle accueille ses patients dans sa ruka, une habitation traditionnelle mapuche. À l'intérieur, le sol est en terre, il y a un trou au centre pour le feu et le plafond est recouvert de suie.
La ruka, c'est un espace qui nous transporte vers notre esprit et vers notre être primitif.
Miyarai raconte que très tôt, dès l'adolescence, elle commence à ressentir une sorte de mal-être et qu'il lui manque quelque chose. À 17 ans, sa mère l'emmène alors se faire soigner chez un machi.
C'est pendant ce processus de guérison que j'ai découvert que j'étais née pour devenir guérisseuse moi aussi. C'était quelque chose que mon esprit avait toujours voulu et m'en rendre compte, ça a été beaucoup de joie et de soulagement.
Pendant 4 ans, Miyarai s'est alors formée auprès de ce chaman plus expérimenté qui l'avait soignée. Et aujourd'hui, elle pratique la médecine traditionnelle mapuche en tant que machi.
Très souvent, la médecine occidentale dope les patients avec des médicaments pour qu'ils puissent affronter leur vie. Dans la médecine mapuche, on prend le temps afin que la personne qui vient se faire soigner se rende compte par elle-même d'où vient le mal-être dont elle souffre. Et nous, en tant que machi, nous sommes alors un outil, un pont pour aller mieux.
En plus des remèdes à base de plantes médicinales, Miyarai pratique également des cérémonies plus ou moins intenses.
Lors d'une cérémonie, la personne se connecte avec son esprit et ses ancêtres. Elle prend conscience qu'elle n'est pas seulement de la chair et des os, qu'il n'y a pas que le physique, mais des sensations qui vont bien au-delà. Et cette connexion n'est possible qu'à travers un rituel, une prière, des chants. Et je crois qu'on parvient alors à se retrouver soi-même à tous les niveaux de la spiritualité.
Retour à la capitale, Santiago, où Alejandro raconte avoir suivi une cérémonie avec la machi Miyarai il y a un an.
J'y suis allé car je me sentais fatigué. Je sentais que les choses n'allaient pas comme je voulais. J'y suis allé sans aucune attente et je me suis simplement livré à l'expérience.
Il dit avoir vécu une expérience énergétique et spirituelle inédite qui, sans la machi, n'aurait pas pu se faire.
Tout le rituel, les odeurs, ces chants, ça a été la base pour lâcher prise et visualiser mon objectif de reconnexion avec mon énergie. Et la machi a été ma guide. Rétrospectivement, j'ai pensé, ouah, mine de rien, cette cérémonie a été cathartique. D'une certaine manière, ça m'a aidé alors que je n'en attendais rien.
Alejandro n'écarte pas l'idée de retourner un jour voir la machi Miyarai. Naïla Drouané, Santiago, RFI.
RFI Midi.
On vous retrouve, Serge Massot, pour l'actualité des Outre-mer françaises et parler d'une réforme du code minier qui est aujourd'hui à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.
Oui, les députés examinent à partir de mardi un projet de loi de simplification économique qui contient une réforme du code minier, mais qui soulève des réticences parmi les défenseurs de l'environnement. Enzo Dubessé de Guyane la Première.
Le texte réduit le délai d'instruction des permis exclusifs de recherche minier et facilite leur prolongation. Surtout, il crée une autorisation préfectorale unique, mettant sur la touche l'Office national des forêts. Une avancée notable mais insuffisante pour le secteur minier guyanais qui rêve d'un code minier local. Une catastrophe pour les associations écologistes. Elles craignent que des projets néfastes pour la biodiversité ne passent plus facilement les mailles du filet administratif. France Nature Environnement dénonce des simplifications dangereuses pour l'environnement, la santé et les entreprises, dans leur viseur la réduction des exigences en matière d'évaluation environnementale ou le fait que l'organisation d'un débat public contradictoire, aujourd'hui obligatoire dans le cadre d'un projet industriel, devienne facultatif. Ce serait, dit l'association environnementale, un recul inédit en termes de transparence démocratique.
Des associations féministes rassemblées ce matin devant le tribunal de Fort-de-France, en Martinique, pour l'ouverture d'un procès d'un homme accusé de viol et de tentative de viol sur 6 femmes. Plusieurs associations étaient mobilisées donc devant ce tribunal. Et puis les sargasses de retour sur les côtes de la Guadeloupe, exemple dans la commune du François, où ces algues brunes ont provoqué l'annulation de la finale du championnat de bébé yole. Reportage.
Un filet de déviation a été posé à Presqu'Île. Il redirige les algues vers Força, où les petites mains d'un chantier d'insertion les ramassent. Samuel Tavernier, maire du François.
Nous avons dévié vers un site qui n'est pas forcément très habité. Pourquoi au Força ? Parce que là, effectivement, nous avons une possibilité de ramassage manuel.
Mais c'était sans compter sur un arrivage colossal.
C'était tellement massif que c'est arrivé brusquement. Des populations qui n'étaient pas impactées en général, eh bien, le sont aujourd'hui.
Direction point de coucher. Pour le moment, dans le périmètre de Pierre, tout va bien, mais il s'attend au pire.
Quand il y en a, c'est intenable. Le canal, il arrive dans la mer. À droite, il y a le Força, mais à gauche, il y a une crique là. Quand les sargasses échouent là, c'est à ce moment-là qu'elles pourrissent.
La commune voisine, le Robert, va bientôt installer un filet de déviation anti-sargasse. Les algues brunes risquent alors de dévier vers le François. Prochaine étape, donc, l'installation d'un dispositif au quartier Mansarde en priorité.
C'était un reportage de Viviane Mandouki de Guadeloupe la Première. Bonne journée sur RFI.
Merci Serge Massot et merci à tous d'avoir été avec nous. RFI Midi était réalisé aujourd'hui par Yann Eligouin. On se retrouve demain, 11h, temps universel. Et tout de suite, c'est De Vive Voix sur RFI. Très bonne journée à tous.
ce lundi sur RFI.
Comment la science infuse et se diffuse ?
Autour de la question avec Charlie Dupiot.
Bienvenue autour de notre table ronde mensuelle avec mes consoeurs et confrères de la presse scientifique venus, comme vous le savez, avec des exemplaires de leur magazine pour vous les faire gagner. Science et Avenir, Epsilon, Ciel et Espace, pour la science. À vous de jouer et d'écouter pour les remporter.
Autour de la question, tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.